L'exécutif explique pourquoi et comment le couvre-feu sanitaire va se mettre en place dans 9 métropoles. Jean Castex répond aux critiques concernant le nombre de lits disponibles en réanimation, nous l'entendrons. Pour soutenir les entreprises, le gouvernement élargit le fonds de solidarité et allonge de 6 mois le dispositif de prêt garanti par l'État. Nous analyserons ces mesures avec Marie Viennot. Dans les zones où le couvre-feu va entrer en vigueur samedi, les professionnels du spectacle aimeraient qu'un billet de cinéma ou de théâtre ait valeur d'attestation. Des discussions sont en cours au ministère de la Culture. En Thaïlande, plusieurs milliers de manifestants ont défié le décret d'urgence promulgué pour mettre fin au mouvement de contestation. Nous ferons le point sur la situation avec Valérie Crova. Après les annonces du chef de l'État hier, l'explication de texte. Entouré de plusieurs ministres, Jean Castex a donné une conférence de presse en début d'après-midi. Il a commencé par justifier la décision de mettre en place un couvre-feu entre 21h et 6h du matin. En Ile-de-France, comme dans les métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble, le gouvernement s'inquiète de l'accélération de l'épidémie et de la forte sollicitation des capacités de réanimation des hôpitaux. Jean Castex évacue au passage les critiques contre sa méthode.
Je souhaite d'emblée clarifier un point. J'entends dire que la bonne réponse aurait été de créer massivement des lits supplémentaires en réanimation plutôt que de prendre des mesures de freinage de l'épidémie. C'est doublement faux. Aucun système hospitalier ne serait capable de faire face aux conséquences d'une telle épidémie qui pourrait conduire à des dizaines de milliers d'hospitalisations graves si nous ne faisions rien en amont pour l'enrayer. Et surtout, surtout pour créer des lits, il ne suffit pas de s'équiper en matériel et en locaux. Il faut aussi former des médecins et des personnels soignants spécialisés. Vous savez bien que c'est impossible en quelques mois, cela nécessite plusieurs années. Pour soulager nos soignants, et réduire le nombre de malades, toutes générations confondues. La seule vraie stratégie possible, c'est donc le freinage de l'épidémie par le respect strict des gestes barrières et la réduction des contacts et des interactions sociales.
Jean Castex parle de soulager les soignants. Hommage leur est d'ailleurs rendu par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Une indemnité compensatrice est promise à ceux qui renonceront à leur congé dans les jours et semaines à venir. Et les augmentations promises lors du Ségur de la Santé seront accélérées. Un Ségur qui, pour l'instant, n'a pas convaincu les syndicats et collectifs hospitaliers qui avaient appelé à une nouvelle journée de grève. Tara Schlegel, et vous avez bien mesuré l'épuisement des soignants.
Oui, à l'image de ces deux jeunes femmes, infirmières dans le privé, mais passées par la fonction publique, elles défilent aujourd'hui, Laurie est intérimaire en psychiatrie où même le matériel vient à manquer.
On n'a pas assez de compresses, on n'a pas de sérum physiologique. Je veux dire, maintenant, quand on commande ne serait-ce que du savon, on en vient à avoir des réflexions quand même, hein, du savon en période de Covid. Ouais. On en commande trop, on nous en a déjà livré la semaine d'avant.
Qui vous dit ça?
Les directions, voilà. Quand on demande à se faire payer ses heures supplémentaires parce qu'on est souvent amené à dépasser pour des raisons de service, c'est la croix et la bannière. Déjà, on me dit que je suis une des rares vacataires ou intérimaires à faire cette demande-là.
Depuis juin, donc, les heures supplémentaires de Laurie n'ont pas été payées. Mais pour Alice, c'est encore pire.
Moi, je suis en psychiatrie aussi. Par contre, pendant la première vague Covid, j'ai commencé par aller faire des vacations en renfort Covid à l'assistance publique au mois de mars, pour lesquelles je n'ai toujours pas été payée.
Même pas le salaire.
J'ai la fiche de paye, mais j'ai pas le salaire. Et la fiche de paye, je l'ai reçue il y a 2 semaines. Mais par contre, j'ai pas le salaire, c'est-à-dire que je paye des impôts sur de l'argent que je n'ai pas reçu.
Pour Laurie, c'est encore plus simple. Comme elle est vacataire, pas de prime, pas de hausse de salaire non plus, malgré le Ségur. De toute façon, ce n'est pas une augmentation qui pourrait inciter cette jeune femme à retrouver l'APHP, elle qui a longtemps été infirmière en réa dans le public.
Pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis partie au bout d'un an, j'avais à récupérer 150 heures supplémentaires au bout d'un an. Ce qui veut dire un mois de travail complet. Je n'ai jamais pu prendre mes repos à la fin de chaque mois. On avait 10 jours de repos. Je n'ai jamais pu prendre mes 10 jours de repos une seule fois en un an. Parce que j'étais rappelée sans arrêt sur mon lieu de travail. Puis le discours est toujours le même, quoi. On n'a pas d'argent, il faut faire tout avec rien. Moi, j'arrête de faire tout avec rien. Voilà, maintenant, je ne vais rien faire. J'arrête le soin.
Vous avez quel âge ?
J'ai 31 ans.
Vous êtes quand même jeune, quoi.
Je veux dire, raison de plus, est-ce que nous, on va sacrifier notre santé ? Parce qu'on parle aussi de santé, hein, pour les soignants. Santé mentale, physique, nos vies aussi personnelles. Parce que quand on vit à Paris en gagnant 1 780 € par mois avec deux week-ends, je suis désolée, mais on ne vit pas. Donc moi, je ne vais pas sacrifier ma vie au nom de grandes valeurs idéalistes dont tout le monde se fout, quoi.
Voilà, il faut savoir, Aurélie, qu'aujourd'hui, 30% des infirmières abandonnent après leur diplôme.
Tara Schlegel, revenons maintenant aux mesures détaillées cet après-midi par l'exécutif. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Le télétravail est encouragé, le protocole sanitaire devrait être précisé demain, mais rien d'obligatoire. Et le ministre de l'économie assure que tout ce qui peut être fait le sera pour limiter l'impact économique du couvre-feu sanitaire. Mais Bruno Le Maire a annoncé des ajustements plus que des mesures vraiment nouvelles, Marie.
Oui, la boîte à outils a été créée dès le début du confinement en mars. Et depuis, l'exécutif ajuste, allonge, déplafonne, mais sans modifier réellement la nature des aides pour les entreprises. Cette fois, il y a des annonces pour trois catégories d'entreprises. Celles qui contribuent à la vie sociale, festive ou sportive, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, les cafés, la culture, l'événementiel et le sport. Pour toutes celles-là, il sera possible d'accéder au fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros par mois. C'était le cas avant le couvre-feu dans les zones de restriction. Là, petit changement, cette aide sera déplafonnée et il sera possible de la toucher à partir de 50% de perte de chiffre d'affaires. Avant, c'était 70%. Les entreprises de ces secteurs seront également exonérées de cotisations patronales jusqu'à la fin du couvre-feu si leur perte dépasse les 50% du chiffre d'affaires. Deuxième catégorie, les entreprises, tous secteurs confondus, situées dans les zones de couvre-feu. Celles qui ont moins de 50 salariés et perdent au moins 50% de leur chiffre d'affaires pourront avoir accès au fonds de solidarité, mais dans un plafond de 1 500 € par mois pendant toute la durée du couvre-feu. Enfin, pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur et l'implantation géographique, les prêts garantis par l'État seront prolongés jusqu'au 30 juin 2021, alors que cela devait s'arrêter à la fin de l'année. Ces mesures sont bien sûr bienvenues, mais elles ne compenseront pas la perte de chiffre d'affaires pour toutes les entreprises. Plus le retour à la normale s'éloigne, plus les loyers et les échéances de prêts sont difficiles à payer. Sur ces deux sujets, le ministre des Finances a promis d'engager des discussions avec les banques et les bailleurs, mais il n'a pas encore de solutions clés en main.
Marie Viennot, la mise en place du couvre-feu préoccupe notamment les professionnels du spectacle. Plusieurs fédérations du spectacle vivant, comme le Prodis, avec le soutien de la maire de Paris, Anne Hidalgo, demandent des dérogations. Ils aimeraient que les billets de spectacle servent d'attestation pour se déplacer pendant le couvre-feu. Des discussions sont engagées. En attendant une réponse de l'exécutif qui se dit prêt à des aménagements, les théâtres s'organisent. Dans la métropole Aix-Marseille, les représentations vont commencer dans l'après-midi, le week-end, et à 19h en semaine au Grand Théâtre de Provence et dans les quatre autres salles que dirige Dominique Bluzet.
Tout le monde doit se mobiliser pour appeler des milliers de gens qui avaient prévu de venir à 20h et qui vont devoir venir à 19h, chercher des solutions avec eux. Mais ceux qui sont là sont des spectateurs enthousiastes. Et même s'ils sont beaucoup moins nombreux, un exemple, sur un spectacle d'Angelin-Presse-Locage, d'habitude on a 1200 spectateurs, avec la distanciation sociale on était tombé à 700, avec le fait de devoir jouer à 19h ou 18h30, on n'aura plus peut-être que 250 personnes dans la salle, mais on sait que c'est important de le faire pour la société, pour les gens qui sont là, mais il faut qu'on puisse tenir financièrement. Sur l'exemple que je viens de vous donner, on était en termes de recettes normales l'année dernière à 40 000 €, avec la distanciation sociale on tombait à 21 000, et là, avec les nouveaux horaires, on estime qu'elle sera de 6 000, c'est-à-dire que c'est 7 fois moins important que la recette normale. Donc c'est pas un peu, ça relève du naufrage.
Cela veut dire que vous jouez à perte?
Ah oui, on joue à perte et on attend de l'État des mesures qui soient pas simplement financières mais qui soient aussi morales, dans la mesure où aujourd'hui, sur l'enveloppe de 200 millions d'euros qui avait été prévue pour le spectacle vivant, une très très large partie allait servir à financer des structures parisiennes. Là, ce qu'on exige en tant que métropole dans cette situation-là, c'est que un citoyen marseillais, un citoyen parisien, un citoyen grenoblois soit accompagné de la même manière. Parce que sans ça, si on se réveille dans 2 ans et que toutes les structures ont déposé le bilan, alors il y a quelque chose de ce qui fait la France qui aura disparu.
Dominique Bluzet, joint par Benoît Grossin. Ne nous perdons pas dans les polémiques, a demandé tout à l'heure Jean Castex, appelant à la solidarité et à la responsabilité. Mais de gauche à droite, de nombreux élus réclament un débat parlementaire sur le couvre-feu. Les parlementaires socialistes ont adressé une lettre au Premier ministre. Le sénateur Les Républicains Philippe Bas juge lui aussi ce débat indispensable.
Ce sont tout de même des mesures qui sont très restrictives et
l'intérêt de la représentation nationale qui représente les Français dans leur diversité, c'est que le gouvernement est forcé, quand il vient devant le Parlement, de se justifier de manière détaillée. Or, vous voyez bien que nous avons besoin de connaître les raisons exactes pour lesquelles le gouvernement veut empêcher que les réunions familiales, les réunions amicales puissent avoir lieu au domicile des Français. Est-ce que c'est vraiment là que se situe le plus grand danger pour l'épidémie? Est-ce qu'il y a des chiffres qui prouvent que la flambée de l'épidémie que nous connaissons, elle a pour principale cause ce qui relève de la sphère privée? Alors il faut qu'on justifie ces éléments. Et puis il y a un autre aspect, est-ce que c'est bien proportionné? Eh bien, c'est pour répondre à ces questions que dans l'intérêt même de l'exécutif, qui doit avoir le plus large accord autour des mesures, que je crois qu'il est indispensable que le Parlement soit saisi très rapidement, qu'on n'attende pas plusieurs semaines. On a le droit de le faire, on peut prendre ces mesures pendant 4 semaines par décret, mais qu'on n'attende pas ces 4 semaines pour que la représentation nationale puisse porter la voix des Français face au gouvernement.
Philippe Bas répondait à Rosalie Lafarge. La gestion gouvernementale de la crise du coronavirus était déjà critiquée depuis le printemps et des dizaines de plaintes ont été adressées à la Cour de justice de la République. Ce matin, Pierre Neveu, des perquisitions ont été menées au domicile et bureau d'Olivier Véran, mais aussi d'Agnès Buzyn, qui l'avait précédé au ministère de la Santé, d'Edouard Philippe et de l'ancienne porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Et oui, c'est une opération de grande envergure qui a été menée ce matin par les gendarmes spécialisés dans les questions de santé publique et d'infractions financières, avec des perquisitions et saisies de matériel informatique dans les bureaux et au domicile d'Olivier Véran, ministre de la Santé, de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe et de 2 anciens membres du gouvernement, Agnès Buzyn et Sibeth Ndiaye. L'enquête pénale est diligentée par les magistrats de la Cour de justice de la République, seuls habilités à juger les membres du gouvernement pour l'exercice de leurs fonctions. Plusieurs dizaines de plaintes ont été déposées par des malades du Covid et par un collectif de médecins. 9 ont été jugées recevables. Les magistrats de la CGR veulent savoir si les ministres ont pu commettre des infractions pénales dans la gestion de la crise du coronavirus. Dans le même temps, étaient menées des perquisitions chez le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, et chez la directrice générale de la Santé publique France, Geneviève Chêne. Elles étaient diligentées là par le parquet de Paris, qui a également reçu plusieurs dizaines de plaintes, notamment pour homicide involontaire ou mise en danger de la vie d'autrui. Toutes ces perquisitions étaient prévisibles et attendues. D'ailleurs, Édouard Philippe a fait savoir qu'il se tenait à la disposition de la justice en attendant une possible audition devant les magistrats de la CGR. Le maire du Havre sera convoqué mercredi prochain par les membres de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Ce sera sa toute première audition sur sa gestion de la crise sanitaire depuis qu'il a quitté l'hôtel Matignon.
Pierre Neveu, si leur mission est de protéger la population, les policiers demandent à être eux-mêmes mieux protégés. Ils ont obtenu gain de cause. Après une succession d'agressions violentes envers des policiers ces derniers jours, une réunion a été organisée ce matin à l'Élysée et elle a permis à Anne Fauquemberg d'accélérer une batterie de mesures qui avait déjà été envisagée.
Côté chef de l'État, on avance la proposition de loi Fauvergue qui attendait depuis janvier dernier dans un tiroir de l'Assemblée nationale. Proposition de loi issue d'un rapport rendu en septembre 2018 par Jean-Michel Fauvergue, l'ex-patron du RAID, devenu député, et coécrit avec Alice Toureau, sa consœur parlementaire chez LREM. Le texte visait notamment à conforter le rôle des polices municipales. La seconde version, déposée ce jeudi, est enrichie. Il est question de prohiber l'usage malveillant de l'image des policiers, policiers qui obtiennent aussi une limitation du bénéfice des mesures de réduction de peine pour ceux qui les agressent. Après l'attaque au mortier d'artifice du commissariat de Champigny-sur-Marne, les députés débattront également de la vente et de la manipulation des articles pyrotechniques. Et ce débat, justement, il devrait avoir lieu mi-novembre lors de la présentation du livre blanc sur la sécurité intérieure, travail entamé par l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Enfin, côté syndicat de police, on se targue d'avoir obtenu l'oreille du président sur le projet d'un observatoire de la réponse pénale. Mais dans les faits, une telle structure existait depuis 2003, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales rattaché au Premier ministre. Elle devait être supprimée d'ici la fin de l'année, structure qui devrait donc simplement renaître sous une autre forme.
L'avocat et écrivain François Sureau, élu à l'Académie française. François Sureau avait remporté en 1991 le Grand Prix du roman de l'Académie avec L'Infortune. Son dernier livre, L'heure du temps, est paru au mois de mai. François Sureau avait un temps mis ses compétences de juriste au profit d'Emmanuel Macron, pour lequel il avait rédigé les premiers statuts du futur parti présidentiel En Marche. Mais depuis, il s'est montré très critique de la politique du président sur les libertés et le droit d'asile en particulier. La présidente de la Commission européenne a quitté le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui venait de commencer à Bruxelles. Ursula von der Leyen se met en quarantaine après un cas de Covid-19 dans son équipe. Au cours de ce sommet, les 27 doivent justement évoquer la nécessaire coordination de leur politique de lutte contre le Covid. Mais ils vont aussi parler de la lutte contre le dérèglement climatique et de dossiers diplomatiques chauds comme la Turquie. Mais le premier sujet sur la table, c'est celui du Brexit. Les négociations patinent sur plusieurs points majeurs, notamment la demande des Européens de conserver l'accès aux eaux britanniques très poissonneuses. Ce sujet préoccupe en particulier une dizaine de pays européens, dont la France. Et Emmanuel Macron, à son arrivée à Bruxelles, a réaffirmé sa détermination à ne rien lâcher sur ce sujet.
Je vais être ici très clair. Nous savons les points qui restent à discuter et les points qui, aujourd'hui, n'ont pas encore trouvé une solution. La pêche. En aucun cas, nos pêcheurs ne sauraient être les sacrifiés de ce Brexit. Nous n'avons pas choisi le Brexit. C'est le choix du peuple britannique. Et donc, préserver l'accès de nos pêcheurs aux eaux britanniques, trouver un bon compromis pour nos pêcheurs, et je parle de tous les pays d'Europe qui sont concernés, dont la France, est un point important de cette discussion pour nous. Le deuxième élément, c'est d'avoir des conditions équitables entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, c'est-à-dire nous assurer que nous avons un même niveau de jeu pour ce qui est des aides d'État et des réglementations, en particulier sociales et environnementales. Les conséquences du Brexit, ça ne saurait être de créer du dumping environnemental ou social à nos frontières. Et je vais être très clair, cet accord ne saurait se faire à tout prix. Si ces conditions ne sont pas remplies, il est possible que nous n'ayons pas d'accord. Nous nous y sommes préparés. La France y est prête, nous avons pris des textes réglementaires, nous sommes prêts à un non-accord pour les relations futures.
Emmanuel Macron à Bruxelles. Le président du Kyrgyzstan a démissionné depuis les élections législatives du 4 octobre. Des manifestations se succédaient, émaillées de violence. Il y a eu un mort et plus d'un millier de blessés. Le premier ministre Sadir Japirov vient d'annoncer qu'il prenait la fonction présidentielle. Au Yémen, rebelles et gouvernements ont commencé à échanger un millier de prisonniers, un premier signe de progrès dans le processus de paix, avec l'espoir de mettre fin à 6 ans de conflits sanglants. Cet échange de prisonniers est le plus vaste depuis le début du conflit, souligne le Comité international de la Croix-Rouge qui co-organise l'opération. Écoutez Fabrizio Carboni, directeur du CICR du Proche et Moyen-Orient.
On a eu les accords de Stockholm il y a plus ou moins 18 mois, 2 ans. Il était prévu d'adopter des mesures pour créer un environnement propice à discuter de la paix. Et une de ces mesures, c'était la libération de détenus. Il y a aussi l'autre dimension, c'est simplement les familles, c'est simplement les gens qui n'ont plus de contact depuis très longtemps avec les membres de leur famille. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est important politiquement, c'est un signe que les partis sont prêtes à parler, sont prêtes à s'engager sur des enjeux plus politiques pour arriver à une négociation de paix. Et c'est important aussi pour les gens du Yémen, pour les Yéménis qui vraiment sont en train de vivre des années très dures, très difficiles. Et c'est une petite lueur d'espoir pour les Yéménis, qui j'espère va encourager les partis à parler sérieusement de la paix.
Fabrizio Carboni du CICR, joint par Omar Waman. Et puis en Thaïlande, le gouvernement a durci le ton face au mouvement de contestation pro-démocratie qui défie la monarchie depuis plusieurs mois. Des leaders de la contestation ont été arrêtés, les rassemblements de plus 5 personnes interdits et des messages considérés comme contraires à la sécurité nationale. Mais cela n'a pas empêché de nouveaux rassemblements aujourd'hui dans la capitale, Valérie Crova.
C'est au cri de libérer nos amis que des centaines de manifestants ont bravé l'interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes. Référence à l'arrestation mercredi de plusieurs leaders du mouvement pro-démocratie à l'issue d'une manifestation qui avait réuni plusieurs milliers de personnes devant la maison du gouvernement de Bangkok. Le tour de vis des autorités thaïlandaises intervient après qu'un cortège officiel a été immobilisé hier, avec à son bord la reine Suthida. La veille, c'était celui du roi. Autant d'affronts pour la monarchie, qui estime que ces manifestations sont contraires à la Constitution. Cette même Constitution que les manifestants veulent voir modifiée, car trop favorable, selon eux, à l'armée, tandis que d'autres réclament une refonte du pouvoir monarchique. Un sujet sensible dans un pays où insulter ou diffamer le roi est un crime de lèse-majesté passible de 3 à 15 ans de prison en vertu d'un article du Code pénal. Une loi qui permet de punir toute critique envers la monarchie, y compris sur les réseaux sociaux, également dans le viseur des autorités.
Valérie Crova. La météo, un léger mieux demain, encore beaucoup de nuages, mais les précipitations se feront rares et les éclaircies seront plus larges sur la façade atlantique. Il fera entre 4 et 12 degrés le matin, l'après-midi 9 à Aurillac, 13 à Paris, 17 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.